France Culture, il est 20h32, après l'Asie, la tradition, la peinture, une longue remontée dans notre temps occidental, 5e siècle avant Jésus-Christ, pour évoquer le portrait et suivre la dramaturgie du premier auteur des tragédies.
Écoutez maintenant, vous, citoyens d'Athènes, ce conseil de justice que j'établis aujourd'hui pour juger du sang versé, ce tribunal suprême sans cesse renouvelé, durera dans l'avenir. Ce lieu devient aujourd'hui et pour toujours la citadelle du respect et de la crainte. Le respect de la loi, la crainte du châtiment, voilà le couple auguste incarné en ses juges, sous la garde duquel je place cette ville. Si vous le révérez, vous trouverez en lui un rempart tutélaire tel qu'aucun peuple au monde, même parmi les plus sages, n'en possède à ce jour. Incorruptible, vénérable, inflexible doit être ce conseil qui veillera sur vous, vous tenant éloigné des deux excès contraires, mais également funestes, le despotisme et l'anarchie. Tels sont les avis que j'ai voulu donner pour les jours à venir aux citoyens d'Athènes.
Une vie, une œuvre, Eschyle. Le colosse enfoui. Par Florence Marguier et Annie Douel. Eschyle naît à Eleusis en 525 et meurt en Sicile en 456 avant Jésus-Christ. Il combat à Marathon comme à Salamine et témoin de la mutation de la cité qui fait d'Athènes une démocratie. Dramaturge, acteur, metteur en scène de ses propres pièces, il instaure la tragédie, faisant intervenir l'histoire sur la scène. À Athènes, lors des Dionysies, les poètes autorisés à conquérir sont sélectionnés par de riches citoyens et les vainqueurs choisis par des juges qui représentent l'ensemble du corps politique athénien. Les pièces d'Eschyle, tragédies, comédies satiriques, comédies, étaient ainsi jouées au cours de ces fêtes populaires. Jean Gilibert.
Le théâtre était consacré aux Dionysies, aux petites, aux grandes Dionysies, surtout au sacre, en l'honneur de Dionysos et du printemps. Mais c'est une facilité qu'a eu l'Occident de penser que le théâtre grec est un théâtre de la cité. Ça certainement pas. Il est d'abord hors de la ville. Il n'est pas dans l'agora. Il est hors de la cité. Il se situe comme les cimetières en dehors de la ville. C'est déjà très particulier géographiquement et aussi mentalement. C'est un lieu d'une conciliation possible entre les forces politiques et les forces obscures, les forces transcendantales du cosmos, des dieux, etc., etc. C'est pas un théâtre politique comme Villars-la-Crue, par exemple, ou comme non, c'est pas un théâtre politique. Ça, c'est une erreur. C'est un théâtre civique par le fait qu'on est capable de réfléchir les valeurs transcendantales du mythe. Par exemple, l'Orestie s'appuie sur un mythe ancien, compliqué, le mythe des Atrides, mais le mythe ne subsiste pas dans la tragédie. Il n'existe qu'en se désistant au profit de l'agone, au profit du combat entre un individu humain et le reste de la vie.
Jacques Lacarrière, Eschyle est là à la naissance même du monde démocratique, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un éveil de la conscience chez les citoyens et en même temps il y a toujours effectivement ce rapport au dieu, à Zeus qui est assez présent. On le voit par exemple dans Agamemnon. Donc on pourrait dire peut-être que Eschyle est un citoyen dramaturge qui fait entrer les dieux sur l'orchestra.
Mais les dieux, ils sont obligatoirement. Il n'y a pas de représentation sans dieu. Bon, ça commence d'ailleurs par un hommage à Dionysos, comme, je ne sais pas, les cérémonies collectives commencent par une messe, dans certains cas, ou par une prière collective. Les dieux sont sur scène, mais la tragédie prend quand même la liberté, quelquefois, de les montrer d'une façon je dirais, assez personnel au dramaturge, quitte même à les montrer parfois avec Aristophane d'une façon franchement comique ou burlesque, enfin. Mais ils sont là de fait. Ce qui peut-être est le plus propre à Eschyle, c'est qu'au fond, les personnages, puisqu'il y a quand même des personnages plus importants que d'autres, sont tous sans exception à l'intérieur d'une prédestination. Cassandre ne peut pas faire autrement que, elle le sait d'ailleurs, en plus elle est prophétesse, elle sait tout ce qui va lui arriver. Alors c'est un cas limite, ça même, de prédestination. Mais tout le reste se déroule, et c'est ça qui est la force, enfin je crois, de ses œuvres. En plus, il faut se dire que la plupart, peut-être pas tous, mais la plupart des spectateurs connaissaient l'histoire d'une certaine façon sur la guerre de Troie. Ils savaient bien que Ulysse avait mis 10 ans à rentrer, qu'Agamemnon avait été assassiné, etc. Mais Eschyle a tiré sa force justement de la révélation de ce qu'on savait déjà, mais qu'on réapprend en le voyant à travers lui. Parce que c'est ça. C'est pas un novateur du tout. C'est quelqu'un qui vous fait redécouvrir ce qu'on croyait connaître. Par exemple, tout, on pourrait dire, des arcanes d'un assassinat, celui d'Agamemnon, tous les arcanes d'une défaite, de Xerxès, c'est-à-dire tout ce qui les motive et qui n'est jamais dit ou apparent dans l'histoire. Et c'est ça. C'est un découvreur des chemins secrets qui mènent à ce qu'on pourrait appeler un destin. Mais où toujours il y a un moment où on se dit, peut-on lutter contre ce destin auquel même les dieux sont parfois soumis? Il dévoile les dessous de l'histoire collective. Il faut voir, et ça c'est presque à l'époque quelque chose de très audacieux, même au 5e siècle, comment il juge Agamemnon pour avoir égorgé sa fille, pour pouvoir faire la guerre. On pourrait dire c'est un ordre, un oracle, donc c'est un gars cruel, et dans la Bible aussi, Abraham doit être son fils, d'après, on lui dit, il menait ton fils, oui, c'est, bon, c'est, mais dans la Bible au moins il s'en tire, au dernier moment, c'était pour éprouver son obéissance. Là, l'acte va jusqu'au bout, et Iphigénie, pour moi, est un personnage dont l'ombre ne cessera jamais de hanter Eschyle et même Sophocle, comme la malheureuse perdante, on peut dire dans tous les domaines, c'est toujours comme Antigone, des vierges non mariées, qui perdent tout, des princesses, enfin, elle perd tout, et elle est sacrifiée, simplement pour que des gens puissent continuer à aller en massacrer d'autres. Et il y a quand même un point de vue sur la guerre, que Ripide reprendra encore plus fort, mais qui est dans Eschyle. Et il a combattu. Il y était à Marathon, il s'est distingué, dit-on, c'était un grand citoyen athénien, un grand défenseur de la démocratie, mais qui, pour autant, n'était pas du tout ce qu'on pourrait appeler un porte-sabre. C'était quelqu'un qui a su réfléchir admirablement sur tous ses grands problèmes.
Clytemnestre sort du palais, suivi d'esclaves chargés d'étoffes et de tissus précieux.
Citoyens respectés de la ville d'Argos, je ne rougirai pas de laisser devant vous s'exprimer mon amour. Le temps sèche la fleur de la timidité. Je ne récite pas une leçon, je dis ma vie. Une vie pénible, tant que cet homme fut sous toi. Voilà pourquoi ton fils, Oreste, garant de notre foi, n'est pas ici. Un autre ami l'élève. Strophios, le phocéen, qui m'avait affolé de nouvelles imaginaires. Ta mort sous Ilion, ici, l'émeute et la révolte. Crois-moi, la ruse n'est pour rien dans les raisons que je te donne. Si je te parle les yeux secs, c'est que je n'ai plus une larme. J'ai tant pleuré durant ces 10 années de veille, pleuré sur toi, dans le silence obscur des grands feux préparés qui ne flambaient jamais. Tant pleuré que mes yeux sont comme consumés. Et je pleurais aussi en songe, dans des rêves si désastreux, qu'en m'éveillant, je les trouvais plus riches d'horreur que de minutes mon sommeil.
Μεσαντάρτης αλλά Χριστά βήθεια γεγός, τη ζωή σου με θάνατον άνομο χάνεις.
Ποιος σου μέλλονταν θάνατος που δεν σου πρέπει, θάνατος δολερός σε δάμασε, απ' της γυναίκας σου το χέρι με δίκοπο μακέρι.
Pierre-Jean de Lacombe, les films arrivent à ce moment précis en fait de la naissance de la démocratie athénienne, et donc il semblerait qu'ils reprennent en fait les grandes structures de l'épopée homérique, notamment dans ses tragédies.
Oui, alors il reprend la matière est presque toujours épique. Il y en a une exception qu'on a conservée bien heureusement, donc les Perses, où là il s'agit d'une action qui a eu lieu 8 années avant la représentation, donc la bataille de Salamine et la grande défaite perse, mais c'est toujours la matière épique, alors moins homérique, plutôt tout ce qui accompagnait Homère, toute l'immense poésie qu'on a perdue, donc on appelle le cycle épique, c'est cela qui est repris. Donc les héros sont mis sur scène, tels quels, avec leurs noms, leurs histoires, donc ce qu'on appelle le mythe, quoi, et auquel Eschyle en fait ne touche presque pas. Et c'est à travers ces personnages décalés, c'est-à-dire qui représentent des formes de pouvoir qui ne sont tout à fait intempestives, inactuelles dans la Grèce qui est la sienne, qu'il essaie de dire des choses à ses concitoyens.
Il me semble que la matière dont vous parlez chez Eschyle, c'est le langage. Alors quel est ce langage qu'Eschyle va tenter de réinventer en fait sur une scène ?
Longtemps que j'ai travaillé sur ces textes, bon, j'ai cru qu'il y avait une langue d'Eschyle, qu'il y avait une langue tragique, et celle d'Eschyle, différente de celle de Sophocle, et dont il fallait essayer de trouver les secrets, donc par une analyse comme ça, mot à mot. Et en fait, cette analyse mot à mot de la lettre des textes, bon, qui est si importante pour comprendre, a fait découvrir qu'en fait, Eschyle utilise une langue d'emprunt. Ce sont des langues d'emprunt. C'est-à-dire que son art est un art qui ne prétend pas proposer une nouvelle manière de dire. Ce qui est nouveau, c'est le fait qu'il emploie tout ce qui s'est dit, c'est-à-dire aussi bien l'épopée, la grande poésie lyrique, la lyrique chorale, donc qu'il utilise, qui était une lyrique narrative, ou une lyrique de célébration, la philosophie aussi, le langage sur la nature, la médecine, le droit. Et bon, donc il nous manque la plupart des textes auxquels il fait référence, puisqu'on a presque tout perdu. Mais quand même, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas une phrase d'Eschyle où on ne reconnaît pas un modèle. Notamment Homère, c'est-à-dire qu'il peut, par exemple, quand au tout début des Perses, sur les tout premiers vers, il parle des résidences des rois de Perse, de Xerxès, et qui sont appelées chargées d'or. Alors, résidences chargées d'or. Alors, on se demande, on croit que c'est simplement une épithète de description, quoi. Simplement, il dit, voilà, il y a de l'or, ils sont riches. Mais quand même, chargées d'or, c'est une épithète homérique. Donc qui vaut pour Mycène. Donc on est dans une autre époque, l'époque des héros, l'époque de l'or, comme ça, l'or des rois. Et après, le chœur dit quelque chose de tout à fait étonnant. Il parle donc du retour, le royal, le retour du roi. Il l'ajoute, et celui de l'armée chargée d'or. On dit, tiens, c'est étonnant, pourquoi il répète le même mot, chargé d'or, à propos de l'armée qui est allée très loin, l'armée perse qui est allée donc combattre en Grèce. Et alors là, une espèce de déclic qui se faisait, je crois, dans l'oreille de l'auditeur, c'est-à-dire il reconnaissait son Homère avec les grands thèmes homériques, mais il se dit, tiens, quelque chose de bizarre qui se passe avec cette armée perse, elle est partie au loin, portant son or, alors que normalement, comme faisaient les Grecs en Troade, on va chercher l'or de Troie pour le ramener chez soi. Alors là, ça crée une écoute chez l'auditeur, il est dans un monde homérique, familier, donc il connaissait très bien, parce que c'est par Homère qu'il apprenait la langue, à l'école, et donc il connaissait ses textes par cœur, donc il reconnaît ses références et se dit, mais il se passe quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire que cette armée va transporter de l'or très loin, va montrer sa force, sa puissance très très loin. Alors là, il est obligé de se dire, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que ces Perses qui nous rejouent l'Iliade, de certaine manière, avec le retour qui nous rejoue l'Odyssée, mais en sens inverse, puisque c'est de l'Asie vers l'Europe, et non pas. Et avec ce comportement tout à fait bizarre où les guerriers portent de l'or sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il y a des énigmes, vous voyez, donc il procède comme ça, par les références de langage, il fait entendre qu'on est dans un monde épique, mais bon, l'épopée n'est peut-être plus aussi évidente, quelque chose d'autre se passe. Il y a toute une analyse, du coup, qui va s'enclencher. Effectivement, Xerxès est un roi qui veut faire son Agamemnon, avec tous les autres rois de Perse pour aller attaquer la Grèce, et c'est un Agamemnon vaincu.
1990-1993. L'Orestie. Mise en scène, Ariane Mnouchkine. Nirou, alors on est au Théâtre du Soleil et on peut imaginer devant cette photographie que l'on est en face du cœur des vieillards dans l'Agamemnon. Alors qu'est-ce que représente cette photo ?
Alors c'était probablement la première entrée qu'on avait trouvée quand on a commencé à travailler sur les Grecs et c'était extrêmement puissant. On était 12 je crois. La scène était comme un genre d'arène où les portes s'ouvraient au fond et laissaient rentrer le chœur, mais vraiment comme des taureaux. Voilà, il y avait les tambours de Jean-Jacques, la musique, et puis c'était à la fois majestueux, puissant, inquiétant, doux, parce que c'était des vieillards, c'était tout ça en même temps.
Il y a des masques.
C'était la base de notre travail qui est cette inspiration du masque de Katakali qui a la particularité d'être un masque vivant, c'est-à-dire un masque qui bouge avec le visage et en fait il est dessiné de telle manière qu'il sublime les traits, les yeux, la bouche et les contours du visage, etc. Et les costumes aussi étaient donc avec les coiffes, les barbes, les ceintures et les livrées étaient fortement inspirés du costume de Katakali.
Des jupes, des robes,
de larges jupes avec une livrée et
rouge,
oui. Et donc avec des bâtons décorés, des coiffes assez élaborées. Et des barbes.
J'ai l'impression qu'il y a une sorte de richesse parce qu'on voit des bijoux sur les poignets, on voit.
Oui, c'était des costumes somptueux. De beaux costumes. Et on a cherché aussi des couleurs parce que chaque spectacle avait sa couleur. Il y avait donc le rouge pour Agamemnon. Déjà, Iphigénie d'Euripide qui a précédé la trilogie d'Eschyle était jaune et blanc. Agamemnon donc était rouge, les coéphores c'était noir et les Euménides c'était la couleur de la terre, la couleur de cendre.
Ariane Mnouchkine.
Nous avons voulu, si vous voulez, monter Iphigénie avant l'Orestie parce que je pense que le public est comme nous, c'est-à-dire en fait ne connaît pas cette histoire.
Alors on va la raconter.
Et voilà. Et donc je pense que une partie de l'Orestie est incompréhensible si on ne sait pas ce qui s'est passé à Aulis. Et bien que Euripide ait écrit Iphigénie après Eschyle et plus tard, la chronologie est ainsi respectée. Je pense que le plaisir en est accru.
Lucien Atoun.
Alors, on va raconter l'histoire des Atrides en deux phrases.
Oh, c'est une histoire de, disons, à la fois de mauvais choix et de malédiction, mais c'est une vengeance. C'est une vengeance qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Alors, il y a deux crimes, dont celui, évidemment, d'Atrée, qui a donné les propres enfants de Thieste à manger à leur père.
Et ça, on l'oublie souvent.
Bon, mais sinon. Donc il y a la fameuse histoire d'Hélène et de Paris, c'est-à-dire Paris qui enlève Hélène à Ménélas, et à cause d'un serment qui avait été juré, eh bien ma foi, les Grecs partent en guerre contre Troie, et puis sont bloqués à Aulis par le calme des vents, et Artémis, la déesse de cet endroit, demande en sacrifice la propre fille d'Agamemnon, qui est le chef de la flotte grecque, voilà. Et Agamemnon, pour sa propre gloire et par peur de l'armée, sacrifie sa propre fille, ce qui n'est évidemment pas du goût de sa mère, de Clytemnestre, et ça engendre la suite, si vous voulez. C'est-à-dire, Clytemnestre se vengera, elle aussi, elle va tuer Agamemnon à son retour. Le fils de Clytemnestre tuera sa mère, Oreste tuera sa mère, avec la complicité d'Électre, sa sœur. Et dans les Euménides, eh bien, ma foi, il sera jugé. il sera jugé et curieusement acquitté. Peut-être parce qu'à ce moment-là, Athéna fait une sorte de petite embrouille. C'est-à-dire qu'elle, d'abord elle vote pour l'acquittement, alors qu'en fait les hommes avaient plutôt condamné Oreste. Mais surtout elle décide que la justice va être différente et que ça va être une justice humaine, qu'on va juger désormais et plus seulement châtier. Et que les dieux se démettent d'une partie de leur pouvoir. Je suis très étonnée, moi, de voir que dès qu'on parle de Clytemnestra, dès qu'on écrit quelque chose sur elle, c'est la mauvaise femme. Et on oublie absolument ce qu'elle a subi. Je ne dis pas qu'elle a raison de tenir sa vengeance sur le feu pendant 10 ans. Mais enfin, quand même, on l'a fait venir à Aulis pour marier son enfant. Et en fait, c'est un piège. On lui prend son enfant et on l'égorge. Elle se venge. Voilà, elle se venge. Et elle tue son mari qui a fait ça. Et elle argumente. C'est certainement un des personnages les plus élaborés des pièces, des personnages les plus intelligents des pièces. Elle explique très très bien pourquoi dans sa passion. Et je n'ai pas, enfin, nous n'avons pas eu du tout à solliciter ni la pièce d'Euripide ni Agamemnon, ni la pièce d'Échille, parce que même si Échille est moins tendre avec Clytemnestre que ne l'est Euripide, dans Iphigénie, il dit des choses. Et le sacrilège d'Agamemnon est dit, redit, et les fruits que ça va porter sont prévus aussi par le cœur dès le début, dès l'entrée du cœur. Donc il n'y avait pas du tout à plaquer de combat des femmes, mais c'est vrai que les tragédies, c'est quand même souvent aussi le massacre des femmes par les hommes, pour des raisons, ma foi, diverses. Mais, donc c'est ce qui éclate, et ce qui nous, en tout cas c'est ce qui nous a éclaté à la figure, à nous, en tout cas dès qu'on a commencé à travailler.
Clytemnestre est une mère en deuil, comme le rappelle Nicole Leroux, qui souligne que Clytemnestre agit en empruntant la ruse, celle où la persuasion érotique se met au service du châtiment d'Agamemnon. Jean Gilibert.
Clytemnestre, dans l'histoire de l'Agamemnon, c'est elle la meurtrière de son mari, puisque son mari Agamemnon a tué leur fille Iphigénie, pour que les vents soient propices pour aller détruire Troie, et elle exerce donc une vengeance qu'elle a nourrie pendant plus de 10 ans, l'absence d'Agamemnon, et elle accueille son mari avec une grande emphase, elle lui dit « tu dois être tué comme un dieu, tu es le vainqueur de Troie », etc. Il monte sur des tapis brodés, ce qui était réservé seul aux dieux, il entre dans le palais, et là elle le trucide, avec Cassandre, la prophétesse, pardon, elle les trucide tous les deux, dans la baignoire, puisque c'est un rite, où la femme, l'épouse, donne un bain à son mari, elle le trucide, et le châtre, l'émascule, ce que dira le texte des Coéphores, mais pas Agamemnon, et elle devient donc la meurtrière, vengeant le meurtre de sa fille Iphigénie, qu'Agamemnon, le père, a commis. Puis elle apparaît aux yeux du cœur, avec l'épée au poing encore, et elle va tenter de se justifier de ce crime. Se trouve là une des scènes les plus extraordinaires qui soit du théâtre occidental, qui est la justification de Clytemnestre devant le cœur qui n'aura de cesse de l'accuser. Et tout d'un coup, Clytemnestre, qui justifie son crime par le fait qu'elle est une mère qui a perdu sa fille par le père lui-même qui l'a sacrifiée, elle devient tout d'un coup et elle expurge en même temps tous les crimes de la race, des Atrides, hein, il y en avait de nombreux, il y en avait beaucoup, hein, c'était une race criminelle. Bon. Et en même temps, croyant épuiser le premier crime de la race, elle ne sait plus comment s'exprimer et elle se dédouble, elle dit à un moment, ne crois pas que je sois la femme d'Agamemnon, elle n'est plus la femme d'Agamemnon, elle est un personnage complètement, on peut dire, pré-shakespearien, qui tout d'un coup perd sa personnalité, sa violence, sa réclamation, sa justification, et devient une espèce de grand ange exterminateur, et qui ne pense que qu'à la conciliation des hommes et des dieux qui surviendra dans les Euménides, le troisième volet de l'Orestie.
Clytemnestre a tué Agamemnon. Et donc le cœur donc s'indigne, donc lui demande d'interpréter, enfin lui demande de s'expliquer, de se justifier, en pensant qu'elle ne peut pas se justifier. Et le cœur s'indigne devant cet acte monstrueux, donc avoir tué le roi. Et alors à un moment, il s'écrie en disant voilà, en invoquant le démon, parce que c'est un acte tellement monstrueux que seul un démon, c'est-à-dire un dieu, a pu faire cela. Donc démon, toi qui as ça et la maison et le couple et des deux enfants de Tantale, c'est-à-dire les Atrides, etc. Donc tu, là, il montre qu'il y a une violence qui lui dévore le cœur. Et alors, Clytemnestre fait comme si le cœur avait expliqué la chose, avait expliqué son acte en disant oui, c'est pas toi Clytemnestre, finalement c'est le démon qui s'est, emparé de la famille et là qui a tué Agamemnon. Donc Clytemnestre réplique, disant, voilà, là, maintenant, tu as rectifié le jugement issu de ta bouche quand tu fais appel au démon trois fois repu de cette famille. Alors que le cœur n'a pas fait ça, il a simplement dit, mon Dieu, que c'est affreux, c'est seul un Dieu pour avoir fait ça. Mais elle explique. Alors, elle construit une espèce de médecine tout à fait bizarre en jouant avec les mots d'Homère. Des mots qui étaient véritablement difficiles. Alors, elle dit, pourquoi il faut bien parler du démon? En effet, né de lui, du démon, un désir habitué à lécher le sang des hommes, grandit dans son ventre, dans le ventre de la famille. Alors là, c'est très intéressant, parce que le désir de lécher le sang des hommes, ça condense en un mot, c'est un mot qu'invente Échille, ça le condense un vers d'Homère où on parle des guerriers qui sont comparés à des loups voulant, lécher le sang. Et elle poursuit, « Avant que ne s'achève l'ancien tourment, la liqueur vivace du dieu reprend jeunesse. » Alors c'est étonnant, ça veut dire qu'il y a un démon qui veut lécher le sang des hommes, donc qui fait des meurtres, et ce démon, du coup, il se construit une vie éternelle, une vie de jouvence, et la liqueur vivace du dieu, donc c'est comme si il avait un autre sang à lui, en lui, qui est un sang divin. Or là, Échille joue sur les mots, car on avait deux mots pour dire sang, le mot haima, donc dans hémoglobine, qui veut dire le sang humain, et le mot ikor, que la médecine a repris, en lui donnant un autre sens, qui voulait dire, dans Homère, le sang des dieux, strictement des dieux, qui n'est pas le sang des hommes. Les dieux n'ont pas de sang humain, parce qu'ils ne mangent pas de pain, ils ne boivent pas du vin, ils ont une autre nourriture. Et or, à l'époque d'Échille, des médecins avaient utilisé ce mot extraordinaire, ikor, pour dire le sang réservé aux dieux dans Homère, pour parler des humeurs du corps, donc ou du pu, ou des sanies, etc. Et alors, ce que fait Échille, alors là, c'est vraiment, voilà, il fait de la philologie, il dit, attention, non, le sens d'Homère, à savoir ikor, voulant dire sang divin, et non pas humain, peut encore faire sens maintenant, dans la situation où nous sommes, au 5e siècle, et on peut l'utiliser en opposition au sang humain, et pour décrire cette vitalité éternelle du dieu qui vient, comme un vampire, sucer le sang des hommes. Vous voyez, donc il joue sur les mots comme ça, pour faire ressortir des sens possibles de la tradition. Donc il prend position par rapport au médecin, en disant, ce mot que vous employez comme un mot technique, pour dire donc une humeur, ou la bile parfois, eh bien non, ça peut toujours dire le sang, un sang mythique, le sang des dieux. Mais ce sens étonnant qu'on a chez Homère est encore d'actualité. Ça me sert à moi à représenter l'éternel retour de la violence dans la famille.
De la pourpre, une pourpre sans fin. Grâce aux dieux, notre maison est en état de faire face à cette dépense. Nous ne sommes pas des indigents. Seigneur, que sais-je offrir d'étoffes magnifiques, pour peu qu'un bienheureux oracle m'en donne à l'ordre? Que de soie, de brocart aurais-je foulé aux pieds, si j'avais pu jadis racheter ta vie si chère? Ah, magnifique! Le voilà donc rentré au foyer domestique. L'homme qui nous rend la vie après un long hiver. Le voilà dont ces murs si longtemps calcinés par la fièvre et l'angoisse. L'homme qui nous ramène la fraîcheur et la vie. Le maire. Le prince.
exemple. Enfin l'homme achevé, Zeus, à qui tout s'achève, oh, achève mes voeux, et cette chose avec eux qui la reste à achever.
Horrible chose! Ne puis-je me tirer, comme on fait, en crachant du songe qui m'oppresse, des sourires au retour du calme dans mon âme?
J'ai vu, de mes yeux vu, le retour de l'armée.
J'en ai été témoin.
Et pourtant, mon cœur chante un triste chant de deuil.
Je ne sens plus en moi le vin de la confiance, ni le miel de l'espoir.
Le tréfonds de notre être ne peut pas nous tromper. Ce n'est jamais en vain que nous sentons en nous, dansant sur nos entrailles, un cœur qui bat follement.
Puissant à mettre de songe, puisse l'angoisse d'un siège à l'espère se dissoudre loin de ce monde.
Il est bien vrai qu'une trop bonne santé inquiète. Sa voisine, la maladie, cherche sans relâche à l'abattre. Trop lourde, la prospérité heurte soudain l'écueil profond et fait naufrage.
À moins que la sagesse, manœuvrant le palan, ne décharge une part de la riche cargaison et n'allège le navire.
L'histoire de leur récit, c'est comment arrêter le massacre. Comment, à un certain moment, substituer aux Irini, qui sont des divinités vengeresses du sang, un principe qui fera qu'on n'aura pas à venger un sang qu'on parle de venger par des lois civiques, et non plus en répandant à nouveau le sang. Que répondre au crime de sang, si ce n'est, alors dans ce cas, un châtiment qui sonne à notre ordre, et c'est toute la dispute, et en finalement la conclusion de l'Orestie, entre Athéna et Apollon, c'est à propos d'Oreste, évidemment, à propos du crime, puisqu'il a tué sa mère. Mais alors sa mère a tué parce qu'elle a tué sa mère, parce qu'il a tué son père, elle a tué son père parce qu'il avait tué sa fille, enfin, etc. Bon. Et donc, il n'y a pas de raison, si Oreste avait des enfants, alors on aurait tué Oreste, etc. Puis les enfants de l'autre auraient tué les enfants d'Oreste. Donc, pour arrêter ça, il y a Apollon quand même, qui émet un jugement, alors, qui est de l'ordre du patriarcat peut-être, c'est-à-dire la prédominance du père et de l'homme, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le jury est constitué de citoyens d'Athènes, en définitive. C'est-à-dire que les deux divinités soumettent leur point de vue au jury qui absout Oreste, en définitive. C'est-à-dire qu'il absout Oreste, mais à condition que plus jamais ce type de crime ne se renouvelle. C'est-à-dire que, et c'est du coup la transformation des Irini, c'est-à-dire les vengeresses, en Euménides, c'est-à-dire les bienveillantes. Au début de la scène, au début de la troisième pièce, elles sont Irini encore, vengeresses, divinités de la nuit, qu'on pouvait imaginer d'une façon plus ou moins comme terrifiante, avec des masques de vampiresses en quelque sorte. Et elles finissent en Euménides, c'est-à-dire en divinité, comme on en voit sur les toits de Puvichavan, blanches, lumineuses. C'est assez extraordinaire, enfin. Mais ce sont les mêmes. Il y a une inversion, désormais. La vengeance se transforme, elle n'est plus sanglante. Elle devient simplement une sorte de pacte avec celui qu'on aurait voulu tuer. Parce qu'Eschyle pense qu'une démocratie ne peut pas se maintenir sur des lois archaïques de sang contre sang. Ça, c'est justement le régime des tyrans, le régime des encore archaïques, des archaïques de la société. Une démocratie doit, enfin, tout simplement aujourd'hui, ça voudrait dire aussi abolir la peine de mort. Je suis persuadé que ce sont des choses de cet ordre qui sont en cause, mais sous des terminologies différentes. Mais il faut voir que là, il y a en germe tous des problèmes contemporains. Et c'est certainement l'oubli de tout ça qui a fait perdurer les vendettas en Méditerranée, y compris en Grèce et en Crète, jusque pratiquement au seuil de ce siècle.
Cassandre, tout d'abord, on s'est rendu compte que puisque c'était l'étrangère, Eschyle l'appelle la barbare. On s'est rendu compte que c'était pas elle, la barbare. Mais elle était arrivée chez les barbares. Quand elle était prisonnière, elle a été amenée chez Agamemnon. Et donc, on voulait trouver, par exemple, ne serait-ce que dans le costume, une autre façon de rester dans cette forme-là, cette forme très puissante du théâtre oriental, mais de trouver un ailleurs. Donc, du coup, on s'est inspiré plutôt du nom japonais. Donc, déjà, elle était habillée différemment. Ensuite, pour essayer de trouver cette façon dont cette femme a été traversée par ses prophéties, on a fait tout un travail de recherche sur ce que c'était le mythe d'Apollon. C'était Apollon qui l'a possédé. Et après, c'était un travail d'image. Ariane me parlait, elle me disait une chose que je n'oublierai jamais. Cassandre sait qu'elle fait peur. Elle a peur de ce qu'elle voit, parce qu'elle est humaine. Elle voit sa propre mort, mais elle est obligée de prophétiser. Elle est obligée de dire ses prophéties et elle est obligée d'être lucide. Donc, une fois pendant une répète, Ariane m'avait donné l'image d'un opérateur radio dans un sous-marin qui est en train de couler. Elle disait, il a peur pour sa vie, il est transpercé par la peur, mais il est obligé d'envoyer ses messages pour demander de l'aide. Et Cassandre, c'est comme ça, quand les prophéties la traversent, elle est obligée de dire ce qu'elle voit. En même temps, elle ressent la peur de ce qu'elle voit. Et elle sait qu'elle fait peur. Donc elle a ce pouvoir sur des personnes autour d'elle qui l'écoutent.
Cassandre, c'est la composée par opposition avec Clytemnestre. Clytemnestre qui a cette fourberie, mais qui, en même temps, c'est une fourberie honnête, au sens où elle sait que le monde est faux. Donc elle emploie un langage faux. Alors que Cassandre, c'est une toute autre position par rapport au langage, et moi je crois que c'est important de dire que les personnages ne reprennent pas simplement des histoires, bon, Cassandre, Clytemnestre, mais aussi des manières de dire, des manières de se rapporter au langage. Et Cassandre, elle est dépositaire du langage vrai. Elle sait ce qui va se passer parce qu'elle est devin. Donc Apollon lui a donné ça, avant d'essayer de la violenter. Et c'est parce qu'elle a refusé, elle l'a trompé parce qu'elle est passée au niveau de la parole. Elle a dit oui, mais en disant oui, en fait c'était non. Et donc le dieu du langage vrai, là, qui était tout ardent de désir, s'est trouvé trompé par elle. Donc elle a vraiment pris au mot, elle a traité comme le dieu des oracles, quoi. Et Cassandre est dans ce rapport tout à fait étonnant de quelqu'un qui sait la vérité, mais qui ne peut plus persuader, donc ça c'est le châtiment que le dieu lui a imposé, mais qui surtout ne veut pas être prophétesse. Parce que être prophétesse, c'est précisément l'emmener dans une violence qu'elle doit subir de la part des dieux, c'est l'emmener dans les malheurs, et son lyrisme consiste à refuser toute assimilation à ce rôle de prophétesse. Donc elle n'est pas sur scène comme une inspirée, ce qu'elle est, parce que le dieu la saille, comme ça il lui envoie par une sorte de feu mantique de la révélation, donc à plusieurs moments dans la scène, donc elle est submergée par des visions, par des oracles, mais son discours n'est pas l'expression de cette violence-là, c'est l'expression violente du refus de cette violence. Donc c'est toujours contradictoire, et c'est pour ça que quand le cœur lui parle, le cœur n'arrive pas à identifier ce qu'elle est. N'arrive pas à la situer, elle se plaint comme si c'était une lamentation funèbre, puisque évidemment ce qu'elle voit c'est la mort d'Agamemnon et la sienne propre, et en même temps elle est inspirée. Donc ça, il n'arrive pas à la saisir. Il lui dit, mais Apollon n'a rien à faire avec les pleureuses, qu'est-ce que c'est que ce mode de musique là, qu'est-ce que c'est que ce chant. Et la scène, alors scène magnifique entre Cassandre et le cœur, où Cassandre devra patiemment expliquer au cœur pourquoi il y a cette contradiction dans son discours. Et cette contradiction est relancée périodiquement par l'entrée en scène du feu mythique, quoi, qui fait qu'elle est obligée d'aller prise par les visions qu'elle a. Mais chez elle, donc, on a cette tentative d'un langage absolument vrai. Dire un langage pas vrai parce qu'il annonce la vérité, mais vrai parce qu'elle dit vraiment son rapport au Dieu, son rapport au mythe, son rapport à la, au malheur, là, qui est en train de se tramer. Et cela crée une dissonance, bon, qui, je trouve, scéniquement, est passionnante. C'est pas un personnage un. C'est un personnage vraiment qui est brisé.
Il n'y a pas de pathos en même temps.
Pas du pathos au sens moderne, c'est-à-dire que non, pas d'une espèce d'émotivité. Non, il y a du pathos alors au sens grec, c'est-à-dire de ce qu'on subit. Donc elle est victime. Elle est victime du fait qu'elle sait dire la vérité. Donc c'est une chose donc qui ne se communique pas. Donc là c'est une expérience qui met en dehors et ce qui va se communiquer, ce qui fait qu'il y aura une compassion entre elle et le cœur des vieillards de l'Agamemnon, c'est précisément son analyse de ce malheur. Ce n'est pas véritablement la révélation. Donc c'est le fait qu'elle se rapporte de manière aussi triste à ce qu'elle doit dire. Parce que c'est sa mort qu'elle dit par là, mais c'est le non-sens de son existence.
L'Orestie, mise en scène Jean-Louis Barrault, musique Pierre Boulez, Clytemnestre Maribel, Cassandre Marguerite Chamois.
Oh. Toi, Apollon! Apollon!
Pourquoi j'ai mis ainsi le nom de l'Ossias? C'est Dieu d'après le goût des clameurs, funéraire!
Oh, Toi, Apollon!
Apollon! C'est possible, le mot carré, lugubre, un dieu qui n'a qu'à faire des lamentations!
Apollon, dieu des routes! Apollon qui m'appelle! Apollonis! Tu me tairais sans peine pour la seconde fois!
Elle semble annoncer sa propre destinée! Est-ce que le dieu vivrait en son âme d'esclave?
Apollon, dieu des routes! Apollon qui m'appelle! Où m'as-tu donc conduite? Oh, en quelle maison?
Celle d'Atrée, je te le dis si tu ne le sais pas.
Dis plutôt la maison de la haine des dieux. Un nid de crimes sans nombre, de meurtres fratricides. Un abattoir humain où on marche dans le sang.
Je crois que l'étranger va le faire d'une chaîne et caler sur la piste.
Je vois des enfants qui crient sous le couteau. Et leurs membres rôtis dévorés par un père.
Oui, nous connaissons tous tes dons de prophétesse, mais nous l'avons ici, nul besoin de demain.
Gueule ! Je prépare mon âme ! Un nouveau cri affreux t'entoure dans ce palais ! Terrible, cruel, sauvage, intolérable ! Mais le secours est loin.
Que dit-elle ? Je m'y perds !
Misérable ! Tu oses ? Tu oses, en souriant, lui préparer son bain, puis comment dire la fin? Deux bras l'un après l'autre se lèvent pour frapper!
Comprends-moi encore, aux énigmes, succède à plusieurs prédictions!
Horreur, que vois-je?
Par chance, il ne reste que 9 tragédies. Il en a écrit beaucoup, enfin même 7, puisqu'il y a un drame satirique. Il en a écrit, je crois, 90, et il n'y en a que 7 qui sont parvenus jusqu'à nous, plus quelques fragments, mais qui ne sont pas jouables, qui sont rapportés par des auteurs de l'époque. Alors évidemment, d'un certain point de vue, c'est un désastre. D'un autre, quand on voit l'ampleur de son œuvre, la passion qu'on peut mettre à essayer de la déchiffrer, et puis l'importance du message qu'il y a dans ses œuvres, il y a quand même, quoi qu'on dise, il dit des choses à des gens qui l'écoutent. C'est 7 tragédies, enfin en fait surtout 4 d'entre elles qui sont quand même les plus jouées, n'ont rien perdu de leur intérêt parce qu'à elles seules, elles n'ont pas épuisé le répertoire dramatique. Prométhée enchaîné, et bien sûr l'Orestie, la grande trilogie, les Perses, enfin, on est en face, je dirais, d'une œuvre, effectivement, qui n'a pas qu'une formule ou qu'une façon unique d'être revécue aujourd'hui. Et moi, je continue à trouver tout à fait extraordinaire qu'on joue toujours Eschyle, et qu'on qu'on y trouve quelque chose qui soit une véritable nourriture dramatique. Je me souviens de représentations à la Sorbonne, mais par une troupe allemande, d'une trilogie d'Eschyle assez d'ailleurs assez avant-gardiste. Mais c'est très bien aussi que l'œuvre puisse supporter des mises en scène extrêmement différentes. Et c'est ça d'ailleurs, je crois que c'est à ça qu'on peut juger là. Qu'elle résiste déjà à la traduction, qu'elle résiste au jeu et qu'elle résiste au metteur en scène. Et donc pour Eschyle, bien sûr, le travail que nous avions fait au théâtre de la Sorbonne était peut-être un théâtre amateur, mais en même temps, il avait une vertu. Nous recommencions, peut-être sans toujours le vouloir, les conditions du théâtre antique, puisque au temps d'Eschyle, il n'y avait pas d'acteurs professionnels, c'était des citoyens qui étaient choisis pour tenir les rôles, et c'était d'ailleurs la plupart du temps l'auteur qui faisait aussi la mise en scène et qui souvent jouait le rôle principal. Donc il y avait un côté qu'on dirait aujourd'hui amateur dans toute cette entreprise. Et ce que aujourd'hui nous attendons d'une représentation qui est plus ou moins une performance ou en tout cas quelque chose qui montre, je dirais, la science, l'expérience du comédien, n'importait pas au public grec, je pense, à cette époque. Et c'est peut-être pour ça aussi, parce que le moyen de transmission n'imposait pas, je dirais, une science ou une expérience particulière du public, que ces pièces, certainement, ont pu avoir un écho. En ce qui concerne Eschyle, en tout cas, ses œuvres sont vraiment un écho très fort, parce que s'adressant surtout au collectif, un écho très fort de tous les problèmes de la cité d'Athènes. Parce que Eschyle a été, notamment, et à plusieurs reprises, un combattant. C'était, c'est pourquoi la guerre est très présente, quasiment, dans toute son œuvre. Enfin, dans toute celle qui nous est restée. Mais on connaît bien les sujets de celles qu'on ne possède pas. Et c'est très souvent aussi des problèmes d'affrontement et des problèmes, je dirais, de partage entre l'homme et les dieux sur le pouvoir réel qu'on a. Sur soi-même, sur les autres et, je dirais, sur l'avenir.
Azur divin, souffle de vol rapide, rivière ruisselante, et l'innombrable éclat de rire des vagues de la mer, terre, mère de toutes choses, et toi, disque du soleil qui voit tout. Je vous appelle. Voyez ce que me font les dieux. À moi, à Dieu. Regardez sous la dent de quels outrages je vais me débattre au fil du temps interminable. Regardez les nœuds d'humiliation qu'a trouvé contre moi le nouveau chef des dieux. Hélas. Je pleure le mal présent et celui qui menace. Où est-elle la borne qu'il faut fixer à mes tourments? Qu'est-ce que je dis? Toutes les choses à venir, je les connais déjà, exactement. Aucun mal inouï ne surviendra. Et puis, il faut supporter de son mieux le lot qu'on reçoit du destin et comprendre que la nécessité a une force sans réplique. Pourtant, je ne peux ni garder ni briser le silence sur ce qu'on me fait là. Oui, j'ai donné aux hommes des honneurs. Pour cela, je suis malheureux. La bête prise à ce collier. Comme un voleur, j'attrape au piège d'une tige de roseau la source du feu. Il brille chez les hommes, leur maître dans tous les arts, leur grande liberté, et de ces fautes-là, je paie le prix avec ces haineux qui qui me cloue en plein ciel. Non. Non. Un bruit. Qu'est-ce que c'est? Grandeur vole vers moi. Elle est obscure. Souffle divin. Ou d'un homme. Un mélange de l'un et l'autre. Serait-on venu jusqu'à cette roche dernière en spectateur de mes peines? Ou avec quelle autre idée?
Stéphane Braunschweig, vous avez mis en scène Prométhée enchaîné. Prométhée enchaîné qui est peut-être un des éléments de toute une trilogie qu'aurait écrit Eschyle.
Ben, toutes les tragédies grecques étaient constituées par trois morceaux. Donc si vous voyez l'Orestie, vous avez Agamemnon, l'Échoéphore et les Euménides. Donc quand on lit Prométhée enchaîné, on doit toujours se dire que c'est la première d'une trilogie, mais qui est malheureusement perdue. Donc on a accès ici à une œuvre incomplète. C'est pas seulement trois épisodes. Évidemment, c'est trois épisodes de la même histoire, mais en même temps, c'est déjà toute une pensée qui circule, enfin, et qui se constitue, une pensée dialectique entre la première, la deuxième et la troisième pièce. Alors, comme on n'a que la première pièce, il faut essayer de deviner ce qui se passe dans les deuxième et troisième, et ça, on peut, en lisant l'Orestie, en comparant, en essayant de comprendre le fonctionnement de la pensée d'Eschyle, on peut essayer de projeter ce que pouvait être la deuxième et la troisième pièce. Et ce qui est probablement clair, c'est que Prométhée enchaîné se termine par Prométhée qui est englouti dans les profondeurs de la terre, mais enfin il va ressortir à la deuxième pièce, sinon ça serait fini. Et puis on va arriver sans doute à la troisième pièce, à une réconciliation entre Zeus et Prométhée, sachant que Prométhée enchaîné, ça met en place un conflit très fort entre Zeus et Prométhée. Et ça, c'est très important de penser à ça, parce que si on se dit que la trilogie va vers une réconciliation, ça veut dire aussi que Prométhée n'a pas forcément complètement raison dans la première pièce, ni que Zeus n'a pas complètement tort non plus. Donc ça permet d'avoir une vision de la première pièce, donc de Prométhée enchaîné, qui est plus contradictoire, plus dialectique.
D'ailleurs, Stéphane Braunschweig, l'écriture et l'enjeu en fait que propose Eschyle lorsqu'il écrit ses tragédies, donc au 5e siècle, hein, avant Jésus-Christ, c'est véritablement déjà une pensée dialectique, une pensée de la mise en cause en fait du droit divin et du droit des hommes.
Oui, je crois que le théâtre grec et le théâtre d'Eschyle en particulier, c'est un théâtre qui a affaire avec la vie des hommes. Et quand Prométhée vole le feu à Zeus pour le donner aux hommes, c'est bien l'acte fondateur de la civilisation. Mais tout en disant qu'il donne le feu, alors donner le feu, ça veut pas dire juste donner une petite flamme, c'est donner en même temps les arts, les sciences, la pensée, l'écriture, les mathématiques, enfin
la connaissance,
c'est-à-dire c'est tout ce qui permet aux hommes d'être des hommes. Ce qu'il dit, c'est que avant le feu, avant l'acte de transgression, l'acte du vol, les hommes vivaient comme des fourmis, sans conscience. Il leur donne la conscience. Leur donnant la conscience, il leur permet aussi de ne plus avoir peur. C'est-à-dire de ne plus avoir peur de la mort. Et il y a une phrase très très belle dans Prométhée. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait exactement? Lui demande le cœur. Et lui dit, j'ai fait que les hommes cessent de regarder leur mort. C'est-à-dire que l'image qu'on a des hommes d'avant le feu, ce sont des hommes qui sont terrorisés par l'idée de la mort et donc qui ne peuvent pas se projeter dans l'avenir. Alors comme ça, il leur donne aussi le temps.
Prométhée enchaîné, Stéphane Braunschweig, c'est véritablement une pièce de la transgression.
C'est une rupture d'ordre. À partir du moment où un attribut des dieux passe aux hommes, plus jamais ça ne sera comme avant. Alors quand on rompt un ordre comme celui-là, ça veut dire qu'on change de temporalité. Enfin, c'est Pierre-Julien de Lacombe qui explique très bien que Zeus, c'est un temps circulaire, c'est un temps qui se referme sur lui-même, alors que Prométhée, il ouvre le temps de l'histoire. D'ailleurs, ce qui est très beau dans la pièce, c'est que c'est très concret, c'est que le temps de l'histoire, c'est aussi le temps du récit. C'est la possibilité pour les hommes de se raconter, de se représenter. C'est le temps du théâtre aussi. Et le récit, c'est aussi ce qui permet aux hommes non seulement de se raconter, mais de survivre à leur souffrance. Dans Prométhée, il y a une réflexion très très puissante sur la souffrance humaine. Le personnage de Io, c'est le personnage, enfin c'est une boule de souffrance. Hein.
Personnage qui est une sorte de vierge sacrée.
Oui, alors disons que Io, c'est la seule figure humaine de la pièce, hein, puisque dans la pièce il n'y a que des dieux à part elle. Elle a vaguement une ascendance divine, mais elle représente un personnage humain, mais transformé en vache parce que Zeus l'a désiré. Et donc Hera, la femme de Zeus, étant jalouse, a transformé Io en vache. Ce que Eschyle a l'air de dire quand même, c'est que le désir de Zeus pour l'humaine la flattait, et que sans doute il y avait quelque chose pour elle de pas totalement répugnant, à la fois très répugnant et pas complètement répugnant. Bref, elle se retrouve transformée en vache et devant courir sur toute la surface de la terre. Enfin, et on décrit son voyage, et Prométhée va lui décrire son voyage et se pose la question philosophique finalement, est-ce que quand on est dans une telle souffrance, il vaut mieux savoir ce qui nous attend ou pas? Et en lui disant, elle demande à savoir s'il y a une fin à ses souffrances, c'est-à-dire elle demande à la possibilité d'être projetée dans le temps, d'être projetée dans l'avenir. C'est ce que va faire Prométhée en lui racontant tout ce qui va lui arriver comme épreuve à partir du jour J. Et en fait, ça va lui redonner un espoir, parce que ses souffrances ont un terme.
Jean-Gilles Hibert, vous avez participé, comme Jacques Lacarrière, aux recréations en fait des grandes tragédies d'Eschyle, notamment, je crois, avec le groupe Antique de la Sorbonne, hein, en 1947, et vous-même faisiez partie en fait des protagonistes. Alors, qu'est-ce que c'est que pour vous ce théâtre? Qu'est-ce qu'il draine? Quelles sont les forces qu'il met en jeu?
Ce qui caractérise cette aventure, c'est qu'elle était proche de la pensée du texte grec traduit en français par Paul Mazan, qui était l'helléniste, si j'ose dire, de l'époque, et revu par les étudiants, mais elle était proche de la traduction d'Eschyle, et elle respectait les données fondamentales par lesquelles une tragédie grecque ne peut pas ne pas exister, c'est-à-dire l'importance du cœur, d'un cœur chanté et dansé. Dans le cœur, l'estasima, le commos, enfin toutes les parties chantées, dramatiquement jouables, et ayant une importance de ce fait, et les protagonistes séparés du cœur, protagonistes qui pouvaient aussi chanter, comme dans l'Exodus des Perses, où Xerxès chante sa douleur d'être vaincu. Alors ça, c'est très important, car on ne peut pas aborder la tragédie grecque si on n'en respecte pas, ou du moins si on n'en comprend pas, la structure interne d'écriture, poésie, stichomythie, enfin tout le problème de la tragédie grecque. Si on ne respecte pas, on ne peut pas entrer dans l'aventure de la tragédie grecque.
C'est-à-dire que la force dramatique de cette écriture, c'est un langage.
Tout à fait, c'est un langage poétique. C'est une littérature et une poésie très, on pourrait dire, très codée. Elle est libre, mais enfin, elle est quand même codée. Les grandes parties des protagonistes ne s'expriment pas dans les mêmes vers, iambiques que le cœur, hein, que le cœur chanté. Faut pas oublier que le cœur, qui est le personnage capital, surtout chez Eschyle, de la tragédie grecque, avant les protagonistes, est un cœur chanté, dansé, dont on ne sait pas pas grand-chose, ni musicalement, ni chorégraphiquement, donc on peut tout inventer. Mais même si on invente tout ce qu'il faut faire, il faut quand même respecter le fait que c'est un chœur chanté, dansé.
1947, Les Perses, groupe antique du théâtre de la Sorbonne, musique Jacques Chaillet.
Une nef tyrienne près de Salamine.
Oi, oi, où sont nos farnoukos, harionnards dans ce vaillant? Où est ce vaquès de chair? Où les vaillants sont au nom? Memphis, Tarpis, la tristesse.
Jacques Lacarrière, vous avez joué vous-même en tant qu'acteur, cette fois-ci, des personnages d'Eschyle. Alors, comment est-ce qu'on aborde la psalmodie, le texte de quand on interprète Eschyle?
Mais il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas de méthode, enfin, propre. C'est un choix global, la tragédie. Ça dépend d'abord, on la joue avec ou sans masque. On chante ou on chante pas. Qu'est-ce que fait le chœur? On avait adopté un demi-masque, parce qu'on jouait quand même dans les théâtres en plein air. C'est pas mal le masque quand on joue Épidore, parce que quand même, quand les gens sont tout en haut, ils vous voient. Le masque avait quand même certainement un rôle, pas du tout un rôle sonore, il ne portait pas la voix. Ça c'est une légende, mais il permettait surtout de définir des fonctions. Les rois avaient un masque, les devins avaient un type de masque, les messagers avaient un certain type de masque, les princesses avaient un certain type de masque. C'est-à-dire que les gens reconnaissaient tout de suite, c'est comme dans les contes. Enfin, chacun a un attribut bien précis. Et là, même les Euripides s'y est plié. Mais nous, pour le reste, Maurice Jacquemont, qui avait été notre metteur en scène, et qui avait travaillé autrefois avec Jacques Copeau, qui était de cette génération-là, avait fait quelque chose d'extrêmement contemporain. On parlait, bien sûr, en dehors du masque, je veux dire, sans porte-voix. Et puis, on avait des cothurnes, les personnages principaux avaient des cothurnes, parce que c'est pas très facile, encore une fois, sur une scène en plein air, les protagonistes se rehaussent par rapport au chœur. Pendant très longtemps, pendant presque 20 ans, il n'y a eu que 3 représentations par an aux fêtes de printemps, aux fêtes dionysiaques de printemps. Par la suite, il y en a eu aussi ce qu'on appelait les Lénéennes d'automne, qui étaient les fêtes des vendanges, encore 3 autres. Mais ça représentait en toute l'année 6 représentations, donc avec 6 auteurs différents. Alors j'allais dire que les possibilités d'expérimentation n'étaient pas faciles. Mais il est évident que malgré tout cela, à chaque fois, se sont posés des contraintes ou des problèmes qui n'étaient pas prévisibles au début. On peut penser qu'au tout début, ce qu'on appelait la tragédie était un chœur avec un personnage, le coryphée, qui dialoguait, comme on peut le supposer assez justement, et que peu à peu, elle s'est caractérisée, disons surtout la tragédie, mais même la comédie, par l'autonomie du chef de chœur, et par le fait qu'au lieu de passer le temps à déplorer ou célébrer un personnage, une histoire, une initiation, une création, ça commence à raconter l'histoire des grandes familles. Et à ce moment-là, il faut des personnages.
Voici donc l'heure où anéantissant l'armée des Perses altiers et innombrables, tu as enseveli Suse et Ecbatane dans un deuil ténébreux, et des milliers de femmes de leurs faibles bras déchirent leurs voiles et inondent leurs seins de larmes ruisselantes dans la douleur qui les saisit. Et les épouses perses, mollement plaintives, dans le regret de l'homme, leur jeune compagnon, disant adieu au lit mollement drapé, volupté d'une jeunesse fastueuse, exhalent leur deuil en sanglots plus insatiables encore.
Cependant que moi-même, je célèbre aussi le trépas de ceux qui ont péri, source assurée pour nous d'innombrables douleurs.
Pierre Gédé de la Combe, dans les tragédies d'Eschyle, il y a, pour faire vivre, on pourrait dire, le dialogue des personnages sur scène, il y a le rapport entre le cœur et les héros. Hein. Quel est le fonctionnement du cœur chez Eschyle ?
Alors, on sait pas bien, bon, parce qu'on n'a rien avant Eschyle. Donc, on sait qu'il avait des prédécesseurs, Phrynikos, Thespis, on n'a rien, en fait, quasiment rien. Alors, bon, le cœur était quand même, Aristote, c'était au départ, c'était le cœur qui était là, et les personnages sont issus du cœur, sortent de cette masse. Mais c'est vrai que pour nous, c'est difficile de concevoir le sens de ce cœur. Et en général, on se demande, voilà, le cœur participe-t-il à l'action ou pas? Est-il un personnage ou pas? Alors, je crois qu'il faut pas, à mon avis, il faut pas partir de là. C'est-à-dire, faut pas partir de l'action. Ça, c'est encore une idée. Ça, c'est une idée du drame comme intrigue. Non, plutôt le drame ancien, la tragédie, c'est une forme avec l'opposition de deux modes de discours. Il y a le cœur qui chante ou qui ne chante pas, la plupart du temps il chante, et quand il chante c'est une masse, donc c'est une voix compacte, il est lui-même la représentation ou la réalisation d'un consensus. Et face à lui il y a un personnage d'abord, et puis deux acteurs, et puis trois, bon pas plus, donc qui eux se séparent de cette masse et sont en désaccord entre eux. Et donc la base d'une tragédie, disons ce qui fait qu'une tragédie est ce qu'elle est, donc ça, en raison de sa forme, c'est cette double opposition, c'est que d'une part on a une voix compacte, collective, et des voix individuelles, et ces voix individuelles ne sont pas d'accord entre elles. On a deux formes de dissensus, si vous voulez.
Donc il y a une tension entre la masse des vieillards.
Et les personnages, où il y a toujours une tension. C'est-à-dire, c'est frappant que le cœur n'est presque jamais à la hauteur de la situation. Bon, sauf quand il est lui-même personnage, comme dans les Euménides. Et le cœur, on peut dire que, parce que c'est un langage quand même particulier, c'est donc grande lyrique qu'on retrouve chez Pindare ou chez Bacchylide. C'est extrêmement difficile. C'est très précis, mais c'est extrêmement élaboré, quoi. C'est comme du Mallarmé chanté. Mais il y avait une précision tout à fait étonnante, quoi. Donc, on peut vraiment à chaque fois reconstruire le lien entre les mots, entre les phrases. Et le cœur, en fait, il est dépositaire de la tradition poétique. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît tout le patrimoine et toutes les modes, les figures de la très grande poésie, et qui essaye de mettre ce patrimoine à la hauteur de l'événement qu'il a sous les yeux. Donc il y a une espèce de lutte chez lui, tout à fait dramatique même. Donc il y a un drame dans son lyrisme. Il essaie de faire que ce qu'il sait dire par la tradition, mais par tous les métiers de poète qu'il a s'accumulent en lui dans cette forme-là, il essaie de faire que ce métier soit puisse dire l'événement monstrueux qu'il pressent ou dont il est le témoin. Il n'y arrive jamais, évidemment. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que le cœur fait un effort pour interpréter. Et en fait, il ne touche pas l'objet qu'il veut, la catastrophe qu'il veut. Il ne peut pas en rendre compte. Il ne peut pas la dire véritablement. Il ne peut pas l'expliquer, parce que l'expliquer, ce serait lui donner un sens qui, d'une certaine manière, la neutralise. Et ça, il n'y arrive pas. Il est toujours en deçà de ce qui se passe. Et souvent, le personnage principal doit le rabrouer, doit lui dire ce qu'il en est. Donc c'est pour ça que c'est très difficile pour les metteurs en scène contemporains, c'est que le cœur, donc c'est une tradition orale, poétique, vivante, donc extrêmement codifiée, qui doit se mobiliser pour dire une chose exceptionnelle, pour toucher un objet qui n'est pas normalement son objet. La grande poésie lyrique, elle est faite pour la célébration, par exemple, alors que là, il s'agit de dire la monstruosité. Et comment faire pour dire la monstruosité de Clytemnestre, par exemple, dans l'Agamemnon?
C'est-à-dire que le cœur, à ce moment-là, va faire en sorte que c'est Clytemnestre elle-même qui va accoucher de sa parole, de son propre langage.
Alors, Clytemnestre, elle va répondre à toutes ces tentatives que fait le cœur de rationaliser, c'est-à-dire de trouver une explication pour ce qui s'est passé. Alors, elle le fera, elle, disons, en se jouant, parce que Clytemnestre, donc, dans l'Agamemnon, elle a cette supériorité infinie sur le cœur, c'est que elle sait tout de suite ce qu'il en est du droit. Elle ne se fait pas d'illusions, puisque sa fille a été immolée au nom du droit. Donc elle sait déjà que le langage public, que d'une certaine manière le cœur représente, est faux. Puisque ce même langage de la condamnation, donc du juste et de l'injuste, enfin le langage du bien et du mal, est un langage qui a produit une monstruosité, la mort de sa fille. Et c'est la mort de sa fille qui a été la condition de la réalisation du droit, de la justice divine à Troie. Donc elle sait que tout ce monde est faux. Et alors, au lieu de simplement de faire sa vengeance, elle parle beaucoup pour montrer que ce langage est faux. Et donc, elle a elle-même, elle a une rhétorique extraordinairement subtile pour toujours, on dirait maintenant, déconstruire, c'est-à-dire analyser les prétentions au droit à la vérité de ses interlocuteurs. Elle montre toujours qu'ils se contredisent. Et elle, ce qu'elle défend, c'est sa fille, c'est la vie de sa maison, c'est, comme elle dit, la douleur de sa délivrance. Donc, c'est cela, c'est cette Iphigénie-là, l'Iphigénie de tant de pleurs, comme elle dit. C'est cela qu'elle veut, donc c'est le droit de cet être-là qu'elle veut faire respecter. Et mais comme elle ne dispose pas d'un langage qui puisse le dire directement, puisque le langage public est entre-temps est devenu faux à cause de cet acte monstrueux d'Agamemnon. Donc on a vraiment une guerre de langue, c'est ça qui est étonnant, mais où les personnages représentent moins des positions déjà figées, comme quelqu'un étant pour la cité, l'autre pour la famille, etc. Non, c'est plutôt, ce sont des personnages qui disposent de langages, donc des langages traditionnels, et qui essaient d'imposer leur manière de voir en mobilisant la tradition. Et donc on joue avec les symboles de la tradition l'un contre l'autre, mais dans une guerre qui est toujours ouverte.
Jacques Laferrière, dans les Perses, on est au cœur même, en fait, je crois que la pièce avait été écrite, ou disons créée quasiment quelques années après la bataille de Salamine, hein. Donc on est au cœur même d'une représentation de la guerre. Enfin, quel est l'enjeu des Perses?
Ben, ce qui est tout à fait prodigieux dans les Perses, c'est qu'il montre, évidemment, pour valoriser la victoire, parce qu'en plus, les Grecs ont été victorieux, mais qu'il montre la pièce du côté des vaincus, du côté des Perses. Et qu'évidemment, l'effort est, dramatiquement parlant, à commencer par le fait qu'il est sur un théâtre, est beaucoup plus fort. De même qu'il est toujours difficile de faire des grandes choses avec le thème du bonheur, et que le malheur se prête beaucoup mieux à la tragédie, la déploration des vaincus, leur lamentation continuelle, ne pouvait que flatter, disons, l'amour-propre des Grecs, mais ça va beaucoup plus loin. C'est que ça devient une méditation sur les erreurs commises par les Perses. Il y a dans cette pièce, qui raconte donc l'histoire de la défaite perse à Salamine, et le retour lamentable de l'armée perse qui revient comme elle peut, et Xerxès qui arrive comme un véritable éclopé, n'est-ce pas, le grand roi des rois. Il y a une scène extraordinaire où le cœur, qui ne sait plus du tout, on dirait aujourd'hui à quel saint se vouer, mais à l'époque à quel roi se vouer, évoque l'ombre de Darius, le grand maître de l'empire perse avant Xerxès, et un homme qui semble, même aux yeux des Grecs, avoir été un grand souverain. Et le roi Darius dit, en parlant donc de son propre peuple, enfin, c'est-à-dire de Xerxès en réalité, car dans leur insolence, ils ont fait rouler de leur socle les images divines, ils ont brûlé les temples, ils ont violé les femmes, et ils ont fait ce que nul n'a le droit de faire, même étant vainqueur, et surtout étant vainqueur. Ils ont outrepassé, ils ont détruit les temples, donc ils se sont comportés avec orgueil, prétention, violence et cruauté. Et c'est pour ça qu'ils ont été châtiés. Ils ont été châtiés parce qu'ils ne se sont pas comportés comme des vainqueurs, mais comme des vandales, on pourrait dire, ou comme tout simplement des assassins. Et c'est très fort, parce que il faut bien dire qu'à cette époque, une morale pareille était totalement inconnue et même impensable. Faire la guerre, c'était se battre, et puis être vainqueur, c'était s'approprier le vaincu. Mais quand même, Eschyle est justement de celui qui essaie déjà de construire des barrières, en tout cas des frontières sur ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, y compris par exemple vis-à-vis des morts, récupérer les cadavres. On n'a pas le droit de toucher un cadavre. Ça sera aussi toute l'histoire d'Antigone par la suite. Ça sera un cas familial, là. Mais Eschyle est vraiment celui qui veut donner, non pas des limites à la guerre, parce qu'il sait bien que la guerre est quasiment inévitable dans beaucoup de cas, mais essayer de faire en sorte que l'homme n'y perde pas son âme, pourrait-on dire. Bon, se battre, c'est une chose, mais les combats lui-même doivent avoir une sorte de règle d'honneur. Et c'est la première fois que, sur les bords de la Méditerranée, a retenti cette voix. Et c'est vrai aussi, dans sa grande trilogie L'Orestie, où il va donner un exemple clair d'abolition du droit du sang pour le sang, qui est le droit méditerranéen depuis toujours, et jusqu'au XXe siècle, c'est-à-dire la vendetta. Si on tue dans une famille, la famille a le droit de tuer dans l'autre, et ça peut durer comme ça des générations. Et ça peut faire des centaines de morts qui en plus sont justifiées en quelque sorte. Et l'histoire de l'Eurystie, c'est la grande dispute entre Apollon et Athéna, la grande dispute entre les partisans du père et celui de la mère, à qui se transmet le droit, est-ce que c'est par le sang ou est-ce que c'est par la morale humaine qui peut aller contre le sang. Ça, c'est tout à fait extraordinaire aussi. Il est d'un immense modernisme. Les grandes tragédies viennent du fait que lorsqu'une transgression est commise, elle se reporte sur les descendants. Et que lorsqu'un crime est commis, il atteint une famille. Alors, s'il est à l'intérieur de la famille, là, on est dans le cas comme dans le cas d'Oedipe, l'Oedipodie dans une malédiction proprement familiale, dynastique en réalité, parce que c'est toujours autour du pouvoir que ça se passe tout ça. Mais sinon, lorsque c'est un crime de sang qui est fait pour des raisons de rivalité ou autre, alors ce crime de sang appelle la revanche, et donc on est sans arrêt dans un échange de sang perpétuel qui a donné lieu jusqu'à aujourd'hui à la vendetta. D'ailleurs, il y a un écrivain albanais que j'aime bien, qui s'appelle Ismaël Kadaré, qui a écrit un livre sur Eschyle, qui s'appelle Eschyle ou Éternel Perdant. Il dit l'éternel perdant parce que d'abord toutes ses pièces sont perdues, ou presque, parce qu'il a, c'est vrai qu'il n'a pas toujours été, disons, comblé de faveur par différents pouvoirs qu'il y a eu à Athènes de son vivant, que d'ailleurs il a quitté Athènes. Après l'Orestie, il est parti. Et il est parti en Sicile, il a émigré définitivement en quittant la Grèce. Il ne voulait plus entendre parler des Grecs. Il y avait donc quand même là-dessus une non-reconnaissance, on pourrait dire peut-être, de ce qu'il était. Mais à Kadaré, qui a beaucoup étudié les épopées albanaises, et notamment justement toutes les histoires sur les vengeances de sang, a très raison de faire remarquer que des grands problèmes des tragédies d'Eschyle, à part les Perses qui sont un cas alors très particulier de conflit de cité, enfin d'un empire contre la Grèce, sont des problèmes de crimes de sang.
Zeus, tout-puissant, nous prête son aide.
Oui, Zeus, regarde, les petites lèvres n'ont plus de père. Il est mort dans les nœuds d'une vipère hideuse. Il a faim, presse ses orphelins. Notre sort est le même. Si tu laisses mourir cette couvée d'un homme qui jadis fut ton prêtre et te comble à dommage, où retrouveras-tu une main aussi large à t'offrir des festins? Qui te restera-t-il pour servir tes autels au jour de sacrifice? J'implore ta protection. Si pas que sur notre maison, si t'es échu qu'elle tremble, tu peux, si tu le veux, lui rendre sa grandeur.
Silence, enfant! Silence! Quelqu'un peut vous entendre et tout dire à nos maîtres. Ces maîtres que je voudrais voir mort sur le bûcher ou blanc de la résine.
Nul crainte de trahison. C'est Apollon lui-même, son oracle tout puissant, qui m'a intimé l'ordre d'affronter ce danger. Clamant ses volontés, me menaçant de peine à me glacer le sang, il m'a dit de poursuivre, comme ils l'ont poursuivi, le meurtrier d'un père. Point de ces pâles sanctions qui ne privent que d'argent, la mort, pour qui a tué. Sinon, moi, au reste, je paierai auprès de ma vie et parmi de multiples et cruelles douleurs. Et nous savons comment la colère divine tire vengeance du lâche. Ces maladies affreuses qui prennent les chairs d'assaut, ces lèpres sauvages, rongeuses, et qui vont dévorant jusqu'au reste d'un corps, ces dartres, ces plaies immondes qui se couvrent de poils blancs, et nous savons aussi l'attaque des éryniles, la rage, l'épouvante nocturne, une démence qui va jusqu'à le chasser de sa ville, sa chair froyée sans trêve par l'aiguillon de bronze. Pour cet homme traqué, plus de part au cratère aux douces libations. Un courroux invisible écarte des autels, nul ne peut l'accueillir, et méprisé de tous, sans amis, sans recours, il succombe à la faim et vidé de son sang, disparaît tout entier. À ces ordres divins peut-on désobéir? D'ailleurs, il y a en moi plus que de l'obéissance, qu'à mes désirs profonds, à ces ordres s'accordent. Par le chagrin que j'ai de la mort de mon père, par le dénuement qui me presse, par la honte surtout, de voir les Argiens, les fiers vainqueurs de Troie, réduits en esclavage par deux femmes. Car cet homme est une femme, peut-être l'ignore-t-il, mais je vais le lui apprendre.
Georges Gilbert, lorsque vous interprétiez le roi dans Les Perses, je me souviens, parce que je crois qu'il y avait eu une représentation pour Côté Atlantique de la Sorbonne il y a quelques années. Donc vous arriviez comme ça du fond de la scène, qui était la Scénée, hein, c'est ça, avec un masque, une robe, un coturne. Vous pourriez peut-être nous faire ressurgir des images, des sensations et peut-être le langage même du roi.
Il s'agit de Xerxès, le roi fou, le roi vaincu, le roi perse, le coup de génie d'Eschyle devant des spectateurs grecs, vainqueurs des Perses à Salamine, les Perses représentant déjà les barbares, hein, les pré-nazis on pourrait dire, par l'envahissement de la Grèce par les Perses. Eschyle met en scène non pas la victoire des Grecs par les Grecs, mais la défaite des Perses devant des Grecs. Et il traite les ennemis et les vaincus avec un grand honneur, hein, c'est pas honneur aux vaincus, c'est une grande leçon de civisme et de compréhension de ce qu'est une victoire et une défaite. Donc Xerxès, le fils fou, qui par sa démesure, son hubris, a voulu, comment dire, fermer le grand Bosphore, les Dardanelles, là où coule un dieu, comme dit le texte, et envahir la Grèce. Ce roi fou est vaincu par la flotte grec, et il entre en scène, et on ne sait pas du tout ce qui va lui arriver. Est-ce que le cœur des vieillards perses va le lyncher? Est-ce qu'il va le détrôner? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, il arrive cette chose, c'est que par la magie royale, et en racontant la grande plainte de ce roi jeune homme, adolescent presque, de ce jeune roi, devant la démesure qu'il a prise, qu'il a mal gouverné, il raconte cette défaite, tous ces généraux et ses combattants morts sur la grève, et tout d'un coup il enchante par le deuil, par la plainte, par le deuil, par le traîne, il enchante le cœur qui, d'agresseur, on sent très bien que on va le lâcher, hein. La situation se retourne et ils s'entraînent tous dans un grand deuil, un grand traîne de pleurs. L'armée perse est vaincue, l'armée perse est défaite, pleurons, rentrons au palais et pleurons. Et ça finit sur un grand traîne de deuil qui est assez extraordinaire. Ce qui est nouveau, ce qu'on peut dire sans faire de modernité excessive, c'est que cette scène a un côté sadomaso, inattendu, assez étonnant, parce que le deuil à l'époque s'exprimait par la déchirure des vêtements, par l'arrachage des cheveux, par l'arrachage de la barbe, enfin par des lacérations du corps, qui de nos jours, certes en Occident n'existe plus, mais qu'on peut voir encore en Irak, en Orient, et s'exprime par une espèce de grande manifestation théâtrale, et tous se mettent à, comment dire, dans une scène qu'on peut dire sadomaso, parce que Xerxès de vaincu devient, hein, c'est lui qui les pousse à se mutiler, à s'arracher les cheveux, à s'arracher les vêtements, et qui les pousse au deuil. C'est lui l'instigateur.
S'intéresse au problème collectif. Il ne fait pas de psychologie. Les personnages n'ont pas de psychologie. Xerxès, il est battu, donc il pleure, il gémit, il se lamente, il se roule par terre. Bon, il a exagéré certainement le côté orientalisant, déploration, pleureuse ou pleureur. C'est vrai qu'il a montré les pères certainement sous un jour qui devait paraître aussi insolite, n'est-ce pas, que dans un salon versaillais au temps de Louis XIV, de voir des danses derviches, c'est sûr. Il y avait quelque chose comme ça aussi. Mais il ne manque pas de respect du tout aux Perses, et il les connaît bien. D'ailleurs, c'est dans les Perses que les iranologues trouvent des noms perses qu'on a retrouvés sur les inscriptions, sur les fameuses dalles de Nouramanrastan, où on a pu déchiffrer ça, qui se fait le premier déchiffrement par Dopfer, un archéologue allemand du 19e, de l'écriture iranienne ancienne. On trouve des noms qui sont dans les Perses. C'est une indiscutable connaissance du monde perse, Khalechil. Alors, ça suffit pas à le définir, mais c'est un homme dont la vision était absolument globale. C'est-à-dire qui traitait le problème qui concerne la collectivité, dans lesquels l'individu, dont l'individu est toujours une émanation. Il n'y a pas de rôle de premier plan, comme Créon, Antigone, comme Médée dans Euripide. Les personnages appartiennent toujours à un ensemble. Ils sont la voix d'un clan, d'une fratrie. Ils sont la voix d'une histoire particulière ou d'une dynastie particulière. Et ils existent, bien sûr, mais ils sont tous, en quelque sorte, quand même, je dirais, encastrés par leur fonction. Agamemnon, c'est d'abord un roi, c'est une reine, Cassandre, c'est une prophétesse. Ses sentiments personnels sont tout à fait secondaires par rapport à sa fonction. Mais Échille, il est au stade premier, mais premier dans le sens positif du terme. Il est au stade, je dirais, où toutes les rumeurs sont en grande partie collectives, et où l'individu se trouve toujours devant un chemin qui est ou les dieux ou la collectivité. Mais lui, entre les deux, il a beaucoup de mal à s'en sortir. Il est entre deux étaux. Et en même temps, précisément, je pense qu'Eschyle a donné la voix, l'étau des dieux est infiniment préférable à l'étau de ce qu'on pourrait appeler les hommes pervers, violents ou orgueilleux, qui sont les exemples qu'il donne. Agamemnon aussi, il est assassiné, c'est pas par hasard. Xerxès est vaincu, c'est pas par hasard. Pour les Grecs anciens, il n'y avait pas de hasard dans les événements collectifs. Hein? Quand on perd une guerre, quand on massacre un peuple, quand on se trouve devant des échéances ou des décisions collectives à prendre et qu'on choisit la facilité de la violence, car c'est une facilité, surtout vis-à-vis des femmes, des enfants, comme le fera Euripide encore plus violemment dans sa tragédie Les Troyennes, eh bien, je trouve qu'Eschyle a été le grand guide, le grand éclaireur. Il y a un très beau mot en grec moderne qui qualifie Jean-Baptiste, qu'on appelle le précurseur, le prodromos, celui qui est devant sur le chemin. Alors c'est le plus vieux des tragiques, mais c'est celui qui a montré la voie, à savoir que la tragédie est là, à la fois pour réfléchir et pour engager dans l'humain.
Ah ! Qu'on donc pousserait le hurlement sacré sur cet homme déracé, sur cette femme égorgée ? Pourquoi j'ai jamais pensé sans bonne de mon cœur ? Pourquoi retenir la haine qui, par devant mon visage, souffle comme une arbre vif ?
Mais, hélas ! Regardez, souverain des enfers, imprécation des morts, voyez ce qui nous reste, une misère affreuse, un million d'exil, où se tourner, oh Dieu !
Ah ! On chante ses pleurs, je sens en cœur horrible, crève de désespérance, que ton âme s'éclaircisse.
C'était Une vie, une œuvre, Échille, le colosse enfoui. Avec Jacques Lacarrière, Pierre-Julie Delacombe, Jean Gilibert, Niroux, Stéphane Braunschweig. Archivina Martin-Auger, mixage Guy Sénaud, Laure Jung-Lancret. Une émission de Florence Marguier réalisée par Annie Douelle.